France Culture.
France Culture, la fabrique de l'information, François Celtiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré à l'analyse des récits médiatiques, au décryptage du travail journalistique et à ses différents métiers. Aujourd'hui, nous faisons le point sur celui de photoreporter, un genre né dans l'entre-deux-guerres qui a connu ses périodes de gloire avec des clichés mémorables qui ont documenté un monde qui vacille. La photo comme valeur testimoniale, prouvée par la force de l'image et être au plus près des zones de conflit sur le théâtre des événements. Progressivement, les photojournalistes ont fait face à de nombreux défis, l'accessibilité des outils, la crise de la presse et l'essor des réseaux sociaux avec nos fils d'actualité submergés par un torrent visuel, des centaines de milliers d'images fixées en mouvement qui s'entremêlent jusqu'à saturation. Comment préserver le poids des mots et surtout le choc des photos? De quelle manière les photographes doivent-ils se réinventer pour transmettre leur message et préserver leur métier? L'émergence des outils d'intelligence artificielle générative accélère l'ensemble de ces enjeux en permettant à tout à chacun de falsifier les images avec un haut degré de réalisme. Comment les photojournalistes peuvent-ils préserver la confiance du public et la fiabilité de l'information produite? Voilà les grandes questions de ce nouveau numéro de la Fabrique de l'Info. Et pour y répondre, quatre invités en studio. Héloïse Coneza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la photographie et chef de service au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. À distance, un autre chef de service, ou plutôt un directeur adjoint de la formation en charge de la photographie à l'agence France Presse, Éric Barada, bonjour.
Bonjour.
Vous avez également coordonné l'ouvrage Regard de photographe avec Stéphane Arnaud et Stéphanie Garcia. Il vient de paraître aux éditions de La Découverte. Un fort photographe à nos côtés, Samuel Wollendorf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photo-documentariste et réalisateur. Vous avez présenté au festival Visa pour l'image l'exposition Paradise, composée d'images postées sur les réseaux sociaux des témoins et victimes de catastrophes climatiques à travers le monde. Vous allez nous en parler. Enfin, Gilles Courtina complète ce plateau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint de L'Œil de l'Info, un média en ligne dédié à la photographie et au journalisme. Et votre regard sera précieux, tout comme la chronique de Marie Belleuil, journaliste à Courrier International, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Bonjour Marie.
Bonjour.
Quel est le sujet de votre chronique?
Je vais vous proposer de partir pour Hong Kong aujourd'hui en compagnie d'un blogueur chinois pour explorer les dernières mutations de la ville depuis qu'elle a été reprise en main par Pékin.
Voilà, vous avez le programme complet de la Fabrique de l'Info, émission qui se regarde également en images sur la chaîne YouTube de France Culture et s'écoute à toute heure en podcast. Merci pour votre fidélité.
Nous ne sommes rien. Ce qui compte, ce sont les faits. C'est le monde en mouvement. Et nous essayons d'en être, à travers la photographie, les interprètes.
C'était très important de toujours avoir les meilleures photos possibles. Et comme Yvon Deschamps disait, on veut pas le savoir, on veut le voir.
Et puis t'es à l'AFP pour ça, quoi. Si l'agence, elle déploie des moyens, tu vois, pour faire bouger ses salariés aux quatre coins du monde, c'est aussi parce qu'elle a un intérêt à ça, et notamment dans le visuel, mais puisque t'arrives avec un regard nouveau.
Je ne suis pas sur Instagram parce que pour moi, je suis photographe. Ce qu'il y a sur Instagram, c'est pas la photographie, c'est un nouveau langage qui s'appelle l'image.
Le poids des mots, le choc des photos, de Bardo à Barbie, Paris Match.
L'Ukraine, je pense que c'est peut-être un pays en guerre des plus accessibles de l'histoire des conflits et du photojournalisme, parce que voilà, c'est un territoire qui est assez proche. Il y a des accès relativement simples, c'est-à-dire qu'on peut juste sauter dans un train et accéder à l'Ukraine depuis la Pologne.
Nous, les photographes, les médias, nous n'arrivons pas à produire les images qui nous permettent d'opérer le changement. C'est-à-dire qu'on est surinformé et pour autant on ne tire pas le frein à main pour essayer de changer nos comportements, de mettre en œuvre des politiques courageuses pour empêcher la catastrophe climatique.
Alors, on a déjà entendu deux fois le slogan de Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Peut-être qu'il n'est plus tout à fait dans les mémoires de nos jeunes auditrices et auditeurs. Mais Héloïse Coneza, pour prendre une petite perspective historique, dès les années 90, on constate que le public se documente de moins en moins, justement, par la photographie et ce choc de l'image.
Oui, alors c'est vrai que l'histoire du photojournalisme a été portée par de grandes figures du reportage, telles que Robert Capa, qui était l'un des fondateurs de l'agence Magnum. Et la photographie de presse a été traversée par de nombreuses crises, l'arrivée notamment de la télévision au moment de la guerre froide et des conflits coloniaux. Et puis, à partir des années 90, l'avènement du numérique et l'ère d'Internet qui a beaucoup fragilisé les photographes de presse, notamment parce que un nouveau circuit de diffusion des images se faisait jour et que, par ailleurs, la figure de l'amateur qui est témoin d'un événement et qui va faire le buzz est aussi là pour contrecarrer en fait le regard du photographe de presse ou en tout cas amoindrir la portée du témoignage d'un photographe qui reste quand même un professionnel et non un simple amateur.
Voilà, avec un regard évidemment singulier, mais ce qu'on constate tout de même dans les grandes lignes que vous venez de retracer, c'est la profusion des images, hein, entre justement cet entre-deux-guerres où on avait ce pouvoir symbolique du photographe qui avait l'appareil en main, la possibilité d'être quasiment le seul ou presque à pouvoir produire des images. On est arrivé dans un torrent de visuels. Samuel Bollendorf, comment vous percevez-vous cette perte finalement de la rareté de l'image, vous, en tant que photographe et documentariste?
La question de la rareté des images, de toute façon, en tant que photographe indépendant, j'ai été confronté tout au long de ma carrière, puisque avant même les amateurs, il y a eu les photographes locaux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, on m'envoyait sur le terrain, à l'autre bout du monde ou dans un pays voisin pour aller documenter des événements. Avec le numérique et Internet, et évidemment avec les agences filaires, on a eu des très bons photographes qui, partout dans le monde, étaient capable de documenter immédiatement.
Ce que vous entendez par agence filaire, c'est ?
C'est l'AFP, AP, Reuters.
Tous les fils, justement, d'information, voilà, et d'actualité qui ont, on le dit, pour celles et ceux qui découvrent peut-être l'univers des médias, mais alimentent en très grande partie l'ensemble des médias français et internationaux.
Absolument. Et donc, en tant que photographe indépendant, je n'étais absolument pas concurrentiel sur ces terrains, puisque j'allais arriver après et j'avais pas la force de diffusion de ces agences. Donc, de toute façon, il fallait que j'arrive sur le terrain en proposant un autre regard, un autre point de vue, de plus de recul, d'une enquête réalisée plus dans le temps, etc. Donc, ça a déjà été quelque chose auquel on a été confronté. Et finalement, l'arrivée des images amateurs, elle est venue comme une source de témoignage supplémentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon avis, la voir comme une concurrence, mais comme un outil de récit du monde en images. Et ça n'est pas grave si ça n'est pas nous qui réalisons les images, tant que nous sommes capables de toujours apporter justement cette garantie, tout ce service autour de l'image qui est de la vérifier, de sourcer, etc. Et finalement, aller collecter un témoignage par écrit, c'est ce qu'on fait depuis plus d'un siècle.
La nuit voilà. Des temps dans le journalisme.
Exactement.
Donc, pourquoi ne pas collecter aussi ces photos si on arrive à les contextualiser, si on arrive à les vérifier et à les mettre justement en image, j'allais dire, et ça fait partie de votre travail, Samuel Bollendorf, dans le cadre de cette exposition Paradise, dont on reviendra. Je rappelle que vous avez été photographe pendant longtemps pour notamment Libération, qui, comme vous le disiez, vous envoyait dans certains pays et vous a peut-être un peu moins envoyé lorsqu'elle a pu bénéficier de photographes locaux et de photographes amateurs. Eric Barada, vous qui travaillez à l'AFP, est-ce qu'on peut considérer que le photojournalisme tel qu'on le dessine pour l'instant a perdu de sa valeur marchande ?
Alors, de sa valeur marchande, probablement. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si le photojournalisme a perdu de sa valeur marchande. Je pense que les images individuellement en ont perdu. Il y en a, comme vous l'avez déjà dit, une profusion sur le marché, une forme de rareté qui disparaît, donc une valeur économique qui s'étiole aussi. Et donc, c'est devenu un métier qui est difficilement rémunérateur dans ce qu'on connaissait jusque-là depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. C'est devenu de plus en plus difficile d'être très bien ou correctement au moins rémunéré pour son travail de photojournaliste classique, entre guillemets.
Mais comment ça se passe à l'AFP? Tout de même, vous êtes à l'Agence française de presse, vous avez un service photo qui est conséquent, des centaines de photojournalistes. Comment vous avez perçu justement cette évolution par rapport au marché de l'image? Puisque je rappelle que ce sont les médias qui sont quand même vos principaux clients.
Alors en fait, nous, on est un petit peu à part, hein, puisque effectivement, comme vous le dites, on a plusieurs centaines de photographes qui sont salariés à travers le monde, donc qui ne sont pas indépendants, qui ne dépendent pas de la vente de leurs reportages ou de la vente de leurs images pour vivre, qui sont basés, qui ont une zone de couverture ou un type d'actualité à couvrir en particulier, et qui transmettent leurs images au quotidien, qui rapportent le quotidien qui se passe autour d'eux. C'est d'un point de vue économique, là pour le coup des photographes salariés, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'on est dans un écosystème des médias, qu'on a beaucoup de clients, plusieurs milliers de journaux, de sites web, de différents médias autour du monde qui sont abonnés à l'AFP. Mais ces médias souffrent. Les annonceurs baissent leur rémunération, il y a moins de lecteurs, il y a moins d'abonnés. Ces médias souffrent d'une concurrence notamment des réseaux sociaux et puis d'une apparition d'une information gratuite, entre guillemets, même si elle ne l'est jamais vraiment, mais que les gens prennent pour un produit gratuit. Donc ils ont moins de revenus, ils ont moins de moyens pour payer ce qu'on fait au quotidien, qui coûte très cher, à produire tout au long de l'année et sur tous les continents et sur tous les théâtres de crise ou même de juste le simple quotidien, du sport, de la politique, de la vie des gens. Ça coûte cher et c'est moins bien payé qu'avant.
Gilles Courtinet, on a quand même l'impression qu'on a annoncé plusieurs fois la mort de la photographie durant ces dernières années, puis elle est toujours là, elle subsiste.
Oui, enfin, si on regarde un petit peu l'histoire aussi, quand Arago offre la photographie au monde, il y a quand même des gens dont Baudelaire, par exemple, et tout, qui poussent des hurlements en disant c'est la fin de la peinture. On s'est rendu compte que c'était pas tout à fait le cas. Et en plus, moi, je pense quand même qu'il y a une appétence encore de la part de nos concitoyens du monde par rapport à la photographie et aussi à la photographie d'information, de toute façon. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes objectifs qui sont les problèmes économiques, en particulier. Donc, il suppose, par rapport, en ce qui concerne précisément le photojournalisme, peut-être de remettre en question le modèle, qui est un modèle assez mortifère, qui a perduré pendant deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'au début du XXIe, qui était que le photojournalisme vivait grâce aux médias. Les médias ont des difficultés économiques, on va pas revenir là-dessus. Monsieur Barada vient de le dire et tout, ça paye de moins en moins. Donc, il est urgent effectivement de trouver d'autres débouchés. Le mot a été lancé. Les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, des centaines de millions de gens dans le monde s'informent uniquement à travers les réseaux sociaux. Et là, il y a certainement des opportunités qui sont peut-être des opportunités aussi économiques pour le photojournalisme, secteur qui doit être investi au jour d'aujourd'hui.
Même si c'est pas vraiment le modèle des réseaux sociaux, hein, puisque le modèle des réseaux sociaux, c'est justement la mise à disposition de ces images. Et moi, je vois quand même beaucoup de photojournalistes ou même de journalistes qui publient leur travail pour se faire connaître sur les réseaux sociaux comme vitrine sans forcément en tirer une monétisation directe, si ce n'est la notoriété.
Effectivement, la notoriété est importante, donc effectivement, elle suppose d'en passer par une totale gratuité, histoire de se forger une réputation et une image. Néanmoins, vu les dimensions que représentent les chiffres que représentent les réseaux sociaux, Internet, les plateformes, etc., à mon avis, il est concevable qu'il y ait une monétisation du travail, un soutien financier de la part des spectateurs, des utilisateurs des gens qui voient ces images, parce que les quantités de spectateurs, je dirais, sont suffisamment importantes pour que chacun donne une petite somme qui est assez anodine. Donc qui est pas tout à fait gratuit, mais pas non plus extrêmement onéreuse. Après, c'est la quantité qui va faire. Les chiffres sont phénoménaux. On parle de centaines de millions ou de millions, ce qui sont les unités de mesure. Donc effectivement, on peut éventuellement, ça reste quand même à démontrer, retrouver une économie ou un complément économique, tout au moins pour le photojournalisme, à travers la monétisation sur les réseaux sociaux.
Avec évidemment tout un travail préalable qu'il faudrait faire, d'arriver à faire comprendre que ce métier, c'est que photojournaliste, c'est un métier, que ce métier a un coût, et que lorsqu'on délivre l'information gratuitement sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut faire comprendre que tout cela a un prix, et donc éduquer éventuellement le public à remonétiser finalement, à donner de la valeur sur la production photographique. On a néanmoins l'impression, Héloïse Conesa, que les photos iconiques que l'on peut avoir en mémoire lorsqu'on pense à des grandes photographies d'actualité sont peut-être un peu moins présentes aujourd'hui, peut-être d'ailleurs dues à la profusion de ces images.
Oui, alors c'est effectivement, il y a une dilution de l'image icône, mais c'est aussi parce que la mythologie du photoreporter qui était attachée à Périclité. Et c'est ce que, voilà, ce que disait aussi Samuel, c'est-à-dire que l'image icône est liée à une immédiateté dans la transcription du fait. Et c'est une transcription, voilà, total. À l'inverse, quand on est un photojournaliste ou un photographe documentaire, hein, les mots ont du sens et il y a une évolution sans doute aussi terminologique qui traduit une évolution du métier. On est davantage dans la constitution d'un projet qui va s'inscrire sur un temps long, qui va solliciter aussi d'autres réseaux de diffusion que simplement la presse ou simplement les réseaux sociaux. Beaucoup de photographes aujourd'hui qui parlent de l'actualité et qui font ce travail aussi dans un temps long vont chercher à répondre à des commandes qui ne sont pas des commandes produites par la presse, qui peuvent être des commandes institutionnelles, vont diffuser leurs images dans des centres d'art et donc aussi se réinventer en tant que photographe, que ça passe par la forme, par le style. Donc il y a la nécessité de se réinventer, comme disait Gilles, et de réinventer aussi un modèle socio-économique. Et ça, les photographes l'ont bien compris depuis quasiment maintenant une dizaine d'années.
Samuel Bollendorf, est-ce que vous êtes photojournaliste ou photodocumentariste?
Moi, Héloïse va dire que je radote parce que j'ai l'impression de toujours dire la même phrase. C'est-à-dire que j'ai commencé à la fin du XXe siècle et ça s'appelait photoreporter. Mmh. Et puis après, on a parlé de photojournalisme. Effectivement, maintenant, on parle de photographie documentaire. Et c'est vraiment ce glissement sémantique qui raconte combien les photographes ont dû trouver à chaque fois, retrouver une place et revendiquer toujours plus un statut d'auteur, finalement. Et donc un point de vue. Donc le dogme et le mythe de Capa, Cartier-Bresson, de l'objectivité, de l'absence de recadrage, d'être toujours au plus près, etc.
Oui, la photo-vérité, c'est-à-dire on est là, enfin, même si on sait qu'elle n'existe pas, parce que le principe même de la photographie, c'est de choisir un cadre, un champ, et il y a toujours un hors-champ, donc c'est déjà le produit d'un choix immédiat.
Bien sûr, et puis Staline enlevait aussi des personnages sur certaines des images, donc il y avait déjà des fausses images. En tout cas, de mon point de vue, tout ce chemin, il m'a toujours poussé à aller essayer de fabriquer des dispositifs. Alors le terme est un peu est pas bien choisi, mais en tout cas des modes de diffusion qui soient transmédia. C'est-à-dire que évidemment que parfois je vais réussir à financer un projet exceptionnellement avec la presse, parce que comme il y a de moins en moins de production dans la presse, il en faut pour tout le monde, donc je ne fais pas tous mes projets avec la presse. Par contre, je vais essayer de les diffuser avec la presse, puis je vais peut-être faire un livre, mais un livre, ça va toucher au mieux 1500 personnes, une exposition en touchera peut-être quelques centaines, et puis les réseaux sociaux ou les web documentaires il y a quelques années vont permettre d'aller encore toucher une autre audience, et dans une autre qualité et un autre nombre. Et c'est finalement le déploiement d'une enquête sous toutes ces formes-là qui nous permet non seulement de la produire, parce qu'il y a des endroits où on a des financements et d'autres où on les a moins, mais ce qui permet de lisser le budget d'une enquête, mais aussi de toujours essayer de réfléchir à l'évolution de ces formes. En fait. Et finalement, c'est en toujours essayant d'élargir l'audience qu'on est obligé de se poser la question de comment on s'adresse à un lecteur dont les usages et un consommateur des images dont les usages ont été révolutionnés tous les 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais c'est de cet ordre de grandeur, en tout cas moins de 10 ans. Donc à chaque fois, il faut se poser la question de comment, où est-ce que mon image arrive, comment je fais pour qu'elle elle intègre ce flot des consommations.
Et qu'elle dure peut-être, parce qu'on a quand même toujours cette impression qu'une image en rattrape une autre. Comment on arrive à imprégner justement la rétine et les imaginaires des gens?
Ce sont à chaque fois des questions de forme, d'adresse, de mode de diffusion. Mais effectivement, c'est sûr que c'était plus facile de produire une icône qui changeait la face du monde au début des années 80 quand on était seul à découvrir la famille Nobiafra. Aujourd'hui, tout est documenté en permanence par tout le monde. Donc, on a changé de paradigme. Et c'est pas bien ou pas bien, c'est l'évolution du monde. Donc, effectivement, nous ne serons peut-être pas les producteurs de ces icônes majeures qui ont fait le XXe siècle, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner et être dans un refus de la continuation de l'information et de la marche du monde. Donc il faut s'inscrire dans ces nouveaux usages. Il n'y a pas le choix.
Éric Barada, avec votre ouvrage Regard de photographe, je l'ai dit, il est paru il y a quelques semaines aux éditions de La Découverte. Comment vous avez fait justement cette sélection de photos par rapport à ce que vient de dire Samuel Bollendorf? J'imagine que vous avez dit comment on peut justement trouver des photos qui sont peut-être plus singulières, plus ordinaire, différente.
Bah ça, c'est pas mal parce que ça se recoupe vachement justement sur le avec le discours de Samuel, puisque l'AFP est connu pour quelque chose de très immédiat, ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que je voulais juste revenir sur le photojournalisme. Il y a effectivement le photojournalisme à la CAPA qui produit des images iconiques, mais il y a aussi le photojournalisme du quotidien et celui-là, il n'est pas complètement mort non plus. Hein. On continue à faire confiance à des journalistes, photographes, pour raconter localement et ou nationalement ou dans une région ce qui s'y passe dans tout un tas de domaines d'activité qui soient pas forcément celles des crises qui concentrent l'attention et l'intérêt médiatique. Donc il y a quand même la mort du photojournalisme peut-être mythique, je veux bien l'entendre, celle du photojournalisme du quotidien, non, on n'y est pas encore. Il y a encore vraiment ça. Mais c'est vrai que on a tous la sensation, y compris à l'AFP, et on diffuse près de 2500-3000 images par jour, hein. Donc c'est beaucoup de volume, c'est beaucoup d'images qui se remplacent les unes les autres. L'envie de s'arrêter sur certaines images sur lesquelles on n'a pas toujours eu le temps de le faire dans l'année écoulée. On a l'envie de montrer que certaines images qui sont passées sur les fils d'information, on peut les découvrir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de grandes images avec une véritable valeur graphique, une valeur esthétique, qui laisse à penser, qui laisse à imaginer, qui permettent aussi de comprendre des fois. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour faire ce bouquin, puisque tous les ans, depuis des dizaines d'années, l'agence fait un espèce de best-of annuel qu'on sort, qui nous fait un peu plaisir, mais qu'on trouvait très désuet, très démodé. Aujourd'hui, justement, avec la profusion d'images on s'affronte tous les jours. Donc, on s'est dit, on va faire un bouquin qui nous fait plaisir, qui fait plaisir aux photographes, qui fait plaisir aussi à l'idée de faire plaisir aux lecteurs pour qu'ils aient le temps de découvrir des images, de se plonger dedans et de se plonger à travers elles dans un sujet ou une actualité qui a fait l'année écoulée, mais pas forcément de faire un espèce d'almanach Vernot de tout ce qui s'est passé l'année dernière, de tous les grands événements, de toutes les grandes figures. Bon, bref, on avait envie de s'arrêter un petit peu, de montrer des formats différents, de montrer des images qui se mélangent et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles, si ce n'est la puissance visuelle qu'elle dégage.
Voilà, on comprend bien que l'un des remèdes, du moins, c'est d'arriver à ralentir la photographie qui doit prendre de la distance, prendre de la hauteur, arriver à contextualiser, à faire finalement peut-être un peu plus que la photo elle-même, arriver à la mettre en récit. Gilles Courtinet, on a parlé au début de cette émission de la photographie amateur. Vous vous dites qu'elle est quand même relativement de qualité médiocre de manière informative.
Oui, moi je reprendrai volontiers la formule qui est de dire c'est pas parce qu'on fait une photo qu'on est photographe pour autant. C'est vrai qu'en particulier photo-reporter, ça demande quand même un certain talent par rapport à la narration, par rapport à la manière dont on bâtit un sujet, par rapport à l'histoire qu'on veut raconter. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Éric à l'instant que je trouve assez intéressant. Oui, il a dit que le photojournalisme, c'est pas simplement les conflits, l'Ukraine, Gaza, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un photojournalisme intéressant, qui est le photojournalisme de proximité. Il y a des initiatives qui ont été prises par rapport à ça. Par exemple, une ONG américaine qui s'appelle Catch Light a monté des projets qu'il finance pour que la presse locale américaine réembauche des photographes leur salaire étant à moitié payé par le support et à moitié par l'organisation. L'idée derrière, effectivement, c'est que ces photographes allant au contact du terrain, c'est-à-dire du lectorat des journaux régionaux et locaux américains, pouvaient faire remonter une information importante qui était qu'est-ce que les gens voulaient lire et savoir dans leurs médias. Et donc créer comme ça une sorte de cercle vertueux et à travers le travail de photojournaliste de terrain, mais un terrain régional ou local.
Le terrain de la proximité.
Le terrain de la proximité, le photojournalisme de proximité. Apparemment, ça fait un certain nombre d'années qu'il fonctionne. Apparemment, c'est quelque chose qui, dans les chiffres, ont montré que c'est quelque chose qui fonctionnait. Donc là, il y a quelque chose à considérer, parce qu'on pense en général le photojournalisme comme étant Tintin Reporter, quoi. Effectivement, c'est Capa, on en vient d'en parler, etc. Les grandes icônes de l'histoire du photojournalisme. Et il y a aussi, comme ça, ce pan qui est proche de la vie des individus et qui peut créer le cercle vertueux dont je parlais pour le média, qui effectivement a une remontée d'informations et qui sait de quoi les gens veulent entendre parler, qui est leur vie en général. Chose qui peut être un peu négligée quand même dans les grands médias traditionnels, télévision, et je ne parle pas de France Culture, bien évidemment.
J'espère bien. Vous souhaitiez réagir, Élodie ?
Oui, mais disons que sur cette question de la proximité du rapport au quotidien, qui n'a plus vraiment la même place aujourd'hui dans les grands quotidiens de presse. Typiquement, la Bibliothèque nationale de France avait piloté entre 2021 et 2024 une mission photographique, une commande pour le compte du ministère de la Culture qui soutenait la profession de photographe de presse. Donc, 200 photographes collaborateurs réguliers de la presse ont été amenés à réfléchir sur la France d'après Covid. Samuel en faisait partie d'ailleurs. Et avec cette idée aussi de redonner la main aux photographes dans une interprétation de ce qu'est la France aujourd'hui. Parce que à un moment donné, dans le petit montage qui introduisait l'émission, on est des interprètes. Et je pense que c'est aussi ça. C'est-à-dire que on n'est pas dans une transcription littérale. On est dans une plus-value du photographe de presse qui est aussi quelqu'un qui peut mettre les choses en perspective parce qu'il a été témoin de plusieurs événements, contrairement à quelqu'un qui va être là et ça va être juste du one-shot, c'est-à-dire que c'est une image qui n'a pas de contextualisation. Et l'importance de la contextualisation critique, c'est aussi ce qu'apporte le photographe, son éthique, sa déontologie.
C'est intéressant quand même ce retour à la proximité. On le voit, vous aviez évoqué la presse régionale ou locale américaine qui traverse de très grandes difficultés. On voit de plus en plus de journaux qui ferment, concurrencés notamment par les réseaux sociaux qui eux-mêmes d'une certaine manière proposent de l'information de proximité. Et on sent que c'est une des solutions aussi pour regagner la confiance des gens, c'est de parler de ce qui se passe au plus près d'eux autrement et être en adéquation avec ce qu'ils ressentent dans leur quotidien. Donc c'est marrant de voir aussi cette évolution du photoreportage sacralisé parce qu'il allait justement à l'autre bout du monde, qui quittait sa maison pour pouvoir nous expliquer le monde d'ailleurs. Et aujourd'hui, la valorisation vient plutôt au retour chez soi, mais un chez soi qu'on raconte autrement. On parlait justement des photographes amateurs, Samuel Bollendorf. Vous avez dit que l'idée c'était plutôt de travailler main dans la main presque. Enfin, du moins, c'est ce que vous avez fait avec le projet Paradise. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, en tout cas, juste effectivement, juste sur ces histoires de photographie locale, évidemment, mon travail ne pourrait pas exister sans ce préalable qui est le fait que nous soyons tous informés d'abord par ces images de filaires, de l'AFP, mais aussi des réseaux, c'est-à-dire que l'immédiateté, elle nous précède, quoi qu'il arrive. Donc, on est tous pré-impressionnés, si je puis dire, par un sujet, avec éventuellement même des mauvaises images. Mais donc,
pré-impressionnés, c'est intéressant, on veut dire qu'on a tous pré-impressionnés de l'impression de que la photo et que l'image fait dans nos imaginaires.
En fait, la seule chose qui fait que nous sommes capable aujourd'hui de discuter de choses que nous n'avons pas vécues, c'est le fait que nous ayons été atteints par des images. Donc, ces images, effectivement, le socle, c'était d'abord l'image d'actualité réalisée par l'AFP notamment. Maintenant, ce socle, il est bousculé par la profusion d'images amateurs. Mais il n'empêche qu'elle continue à fabriquer un socle de représentation collective. Et justement, elle vient fracturer, si je puis dire, la continuité de ce socle de représentation collective qui est basé sur les icônes et toutes les représentations qu'on peut avoir du monde et qui aujourd'hui, si je schématise, les plus de 35-40 ans sont exposés à des images plus fréquemment des professionnels et les moins de 35-40 ans sont exposés à des images que André Gunther appelle l'image conversationnelle. Mmh. Donc des images qu'on partage sur les réseaux pour partager ce qui nous arrive.
Et justement, l'image conversationnelle, elle fait partie de cette exposition Paradise donc qui a eu lieu à Visa pour l'image, notamment sur les incendies qui se sont déroulés à Los Angeles, pas très loin justement de Pacific Palisades. Et vous avez mis en contexte ces photos trouvées sur les réseaux sociaux, mais aussi avec leurs commentaires, aussi avec leurs propres légendes, des emojis, des réactions, en mettant en lumière la photo conversationnelle.
Oui, l'enjeu, le premier enjeu, on vient d'en parler largement, c'était de ne pas aller faire des images qui préexistent. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt que aussi...
On ne va rien apporter de plus.
Voilà, j'ai beau être génial, je ne vais pas aller photographier un arbre qui brûle mieux que les Californiens professionnels photographes et ensuite les Californiens qui sont atteints par la catastrophe.
Ils ont même filmé leur arbre qui brûle
exactement,
avec une subjectivité peut-être encore plus forte.
Leur maison même.
Exactement.
Et donc, ça n'avait pas d'intérêt que je produise ces images, et encore moins que je crache du kérosène en prenant des avions pour aller à l'autre bout du monde pour documenter la catastrophe climatique. Il y a quand même une espèce d'aberration là-dedans. C'est pour ça que j'ai commencé à collecter, à chercher quelles étaient les images que les gens postaient quand ils étaient atteints par la catastrophe partout dans le monde, pas que en Californie évidemment. Et finalement, évidemment que ça documente la catastrophe climatique, ça produit un corpus d'images qui nous permet de fabriquer cette archive de la planète aujourd'hui, mais également ces commentaires et finalement toute cette humanité qui se raconte au fil de ces récits très intimes, faits d'emojis et donc de commentaires qui racontent la sidération, le déni, le complotisme parfois, le selfie, etc. et qui finalement nous raconte aussi quelque chose de notre humanité qui n'est plus capable de voir ou de, en tout cas de réagir face à cette catastrophe finalement. Mmh. Cette mise à distance que produit aussi l'écran et finalement le partage.
Donc, pour bien comprendre, vous n'avez pas produit d'images, vous ?
Non, moi, j'ai pas produit d'images.
Donc, vous avez fait un travail de sélectionneur. Vous avez sélectionné, en fait, les images.
Absolument. J'ai collecté. Je pense que le terme, il est un peu plus proche de ce que fait un journaliste sur le terrain. Mmh. J'ai été collecté des témoignages. Ce ne sont que des témoignages. Et pour revenir et pour finir sur cette question locale, c'est une question de l'intime, à mon avis, qui se joue. C'est-à-dire, comment on raconte, comment on touche les gens ? C'est en leur racontant des histoires qui sont au plus proche de leur intime. Et donc, pour documenter une catastrophe globale et planétaire, c'est très compliqué de trouver ces passerelles. Et pour moi, c'était une tentative de raconter le global par ces témoignages et cette somme d'intimité.
La passerelle a donc été une main tendue par rapport à tous ces photos avec Gilles Courtina.
Oui, je trouve très intéressant ce que raconte Samuel. Parce que là, se pose une réflexion par rapport à l'existence, de toute façon, dans tous les cas, tout le temps, partout, etc., de milliers et milliers d'images qui existent. Et là, l'idée, effectivement, c'est de faire du journalisme à partir de la photo. Alors, c'est pas du photojournalisme, c'est une nouvelle approche qui est intéressante, qui est pour qualifier, effectivement, ce contenu et lui donner un sens bien particulier, tel que le fera un journaliste, justement. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, OK, moi, je me positionne comme journaliste, photojournaliste...
Alors, on va dire spécialiste de l'image.
Spécialiste de l'image, etc. Mais quelqu'un qui va être un passeur, qui va être quelqu'un qui est capable de qualifier un corpus iconographique, et à partir de là, de bâtir une histoire et de donner du sens à ces images qui sont de toute façon préexistantes.
Mais c'est presque une leçon d'humilité, hein, puisque au lieu de se dire « je suis moi le seul à avoir le regard et la capacité de pouvoir traduire comment vacille le monde, comment le monde se déroule, je fais confiance aux autres après justement ce travail de sélection et de collecte. » Héloïse Conesa.
Oui, à une nuance près quand même, parce que dans l'exposition de Samuel, il y a un travail de collecte, certes, mais il y a un travail d'editing, de sélection des images. Et il y a même une façon d'organiser thématiquement certaines séquences d'images pour mettre en valeur des récurrences, des habitudes de prise de vue aussi, qui constituent, façonnent notre mémoire collective. Après, sur la question de l'intime, c'est sûr que c'est une donnée immédiate des réseaux sociaux. Mais est-ce que cela suffit à fournir de l'information et à contextualiser critiquement l'information qui est donnée? Moi, j'en doute personnellement. Je pense que c'est Johann von Kuberta qui disait qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, qui est un photographe théoricien de l'image espagnole, qu'à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui, il est difficile maintenant pour un photographe de produire de nouvelles images et que l'autorité du photographe, elle est dans la part de sélection de celle-ci et dans la part aussi de contextualisation. Et c'est là aussi que Samuel apporte tout son savoir-faire de photographe, c'est que ce sont des terrains de guerre ou de catastrophe écologique qu'il connaît et qu'il peut mettre en perspective avec son savoir.
Bah finalement, Samuel Bollendorf a fait un travail de média, mettre en contexte, un travail d'éditeur. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Barada?
Bah complètement. Je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est vrai que récolter des images qui sont, c'est ce que font beaucoup d'éditeurs ou de médias qui surveillent de plus en plus, parce que dans le quotidien, vous l'avez dit, les images des amateurs ou les images des, pas forcément des amateurs, mais des gens qui sont sur place au moment où ça se passe, ont tout de suite une valeur informative et donc collecter ces images-là, comme Samuel l'a fait, les mettre en perspective, les vérifier, les contextualiser, les organiser pour qu'il y ait une narration malgré tout, c'est un vrai travail de journaliste et de photojournaliste au sens de l'édition ou de la curation du journalisme visuel. Ouais.
France Culture.
Dégagez-moi la une, mettez cette photo à la place.
La fabrique de l'information.
Prenez vos photos et je fais mes titres, d'accord? C'est bon, ça vous convient? Allez dehors.
François Celtiel.
Et en compagnie d'Éric Barada, qui venait de prendre la parole, qui est le directeur adjoint de l'information en charge de la photographie à l'AFP, avec Héloïse Coneza, qui est historienne de la photographie et qui travaille notamment à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, avec Gilles Courtina, qui est rédacteur en chef adjoint de L'Œil de l'Info, un média en ligne, avec le photographe Samuel Bollendorf. On essaye de s'intéresser à l'impact d'une image aujourd'hui dans notre ère des années 2020-2025, qui sont celles de la profusion de l'image avec les réseaux sociaux et aussi, évidemment, comment ne pas en parler, l'ère de l'intelligence artificielle générative qui amplifie la possibilité donnée aux uns et aux autres de pouvoir falsifier une image. Évidemment, ce n'est pas nouveau, hein, le montage, mais on va dire que l'IA permet de le faire de manière très réaliste et permet de le faire à tout à chacun, ce qui pose évidemment des problèmes de confiance. Et en parlant de confiance, je vous propose d'écouter cet extrait.
Je pensais qu'au bout de quelques semaines, on finirait par me dire quelque chose. On me demanderait, est-ce qu'il y a des ours qui déambulent comme ça en ville? Ou encore, mais tes textes n'ont aucun sens? Mais tout ce que j'ai eu en retour, ce sont des pouces levés et des applaudissements. Super projet, très intéressant. Et je me suis dit, waouh, il y a vraiment un sérieux problème.
Propos du photographe Jonas Bendixson qui, en 2016, s'était déjà amusé, il y a presque 10 ans, hein, avec les outils de l'époque, à monter un reportage, un faux reportage de toutes pièces. Il avait réussi finalement à tromper tout le monde. Il avait même réussi à publier ce reportage dans le festival Visa pour l'image, que vous connaissez bien toutes et tous ici. Et c'est juste après qu'il a dénoncé cette supercherie pour mieux mettre en lumière la confiance que l'on accorde aux images. Quel est votre regard à vous, alors justement des IA génératives, par rapport à cette manière de préserver la confiance, parce qu'on est rentré finalement dans une ère où on doute de tout et de l'image en particulier, Gilles Courtina?
C'est l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est le problème de la confiance, donc de l'authenticité des images qui sont soumises à nos regards. C'est vrai que bon, au jour d'aujourd'hui, on va pas revenir longuement là-dessus. On est arrivé à un point, et c'est allé très très vite, hein, de toute façon, où la technologie est capable de produire des images, non seulement des images fixes, mais des images animées, d'un réalisme absolument confondant, avec comme conséquence une confusion possible de la part des gens qui voient ces images, pour déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui a été fait de manière plus traditionnelle, etc. Donc là, on a un véritable enjeu par rapport à ça, qui est un enjeu démocratique important. On ne peut pas dire que pour l'instant, il y a eu, si on va parler de fake images, fake news.
Fake news. Deepfake.
On pouvait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait un déferlement à cause de la facilité d'utilisation et des progrès de la technologie. Il n'y a pas eu un tsunami aussi important que ça, si ce n'est qu'on a vu pendant la campagne des élections américaines récentes un certain nombre d'images qui sont sorties qui étaient pure fake. De toute façon.
Mais on a surtout l'impression, Héloïse Conesa, que c'est pas tant effectivement le déferlement des deepfakes, mais la capacité, ou du moins, ça provoque cette idée chez le public qu'il puisse douter de véritables images. Mmh. C'est-à-dire qu'on arrive à douter du vrai maintenant.
Oui, il y a au-delà de la profusion des images générées par l'intelligence artificielle, c'est une véritable crise de confiance dans l'image à laquelle on assiste. La mise en scène dans la photographie, la manipulation de la photographie, elle est constitutive en fait de l'histoire de la photographie. On parlait de Capa, l'image du soldat républicain qui tombe au combat, qui est une image iconique que Capa a pris pendant la guerre d'Espagne en 36, est une image dont on sait aujourd'hui qu'elle a probablement été mise en scène. Il n'empêche qu'elle a façonné nos imaginaires et notre mémoire visuelle aussi, et que c'était une image qui avait un point de vue, un engagement aussi du photographe du bon côté aussi de la guerre. Et donc aujourd'hui il y a beaucoup d'images qui déferlent mais qui n'ont pas d'interprétation, qui n'ont pas de point de vue, ils ne participent pas à un engagement. Or une image aujourd'hui réalisée par un photographe professionnel est une image qui engage aussi le photographe dans un commentaire rhétorique sur le monde et pas juste dans quelque chose de l'ordre de l'illustration. Et cet engagement-là des photographes est précieux, de même que l'engagement aussi du récepteur, c'est-à-dire nous, en tant que citoyens critiques, on apprend à décrypter des textes depuis qu'on est enfant à l'école, à les commenter, qu'en fera-t-on de même pour les images qui déferlent sur les réseaux sociaux ?
Même si, Héloïse Conesa, vous reconnaissez que c'est de plus en plus difficile à savoir distinguer le vrai du faux. Je ne sais pas ce qu'en pense Éric Barada, dont c'est évidemment le métier d'arriver à vérifier les images. Mais moi qui ai beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle, je crois qu'il n'y a même pas d'outil aujourd'hui 100% fiable qui permettrait de dire instantanément si telle ou telle image a été fabriquée ou qui est passée par un logiciel d'IA.
Effectivement, il y a pas de bonne solution. Je crois qu'on les essaye régulièrement. Il y a tellement de faux positifs ou de faux négatifs qu'on peut jamais faire confiance à la machine. Les solutions, elles sont terribles parce qu'à long terme, alors que la rapidité de diffusion, la rapidité de profusion d'images générées par l'intelligence artificielle, je crois que j'ai lu une enquête il y a peu de temps qui disait que entre 65 et 70% des images publiées sur les réseaux sociaux en 2025, l'avait été grâce à de l'intelligence artificielle générative. Donc on a dépassé la majorité des images, entre guillemets, réelles sur les réseaux sociaux en 2025. L'idée de vérifier, elle est intrinsèque à l'AFP. On a plein de gens qui passent leur temps à faire ça. Il y a plein d'outils, etc. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience, une éducation aux médias, comme vient de le dire Héloïse. On a appris à douter des textes, il faut qu'on apprenne à douter, à critiquer, à décortiquer les images. Il faut qu'on ait aussi quelques standards ou quelques labels qui permettent, pour ceux qui sont de bonne volonté en tout cas, de véhiculer une information authentique et de la labelliser comme telle. C'est avoir dans les métadonnées de l'image, dans même les pixels, inscrit sa provenance et l'authenticité, ou en tout cas la façon dont elle a été créée, si c'est par de l'intelligence artificielle, que ça soit marqué, si c'est par un appareil photo, que ça le soit fait, et puis ensuite la valeur qu'on accorde à l'auteur, la confiance qu'on fait à l'auteur, elle doit aussi être labellisée et mise d'une manière indélébile dans l'image. Mais c'est des solutions qui prennent du temps. Ça fait un an et demi que je travaille sur ces sujets-là avec toutes les grandes agences, plein d'autres médias, des entreprises de tech. Mais la mise en route, elle est très lente. Et en parallèle, la diffusion, elle est folle.
Elle est très rapide de l'autre côté.
La création et la qualité de création est fou.
Ah oui, évidemment. Et peut-être que le jour où vous allez enfin parvenir à trouver votre solution, on sera arrivé dans la nouvelle génération de trafic de l'image. Et on sait très bien que lorsqu'on court derrière les voleurs ou les brigands, on a toujours un ou deux trains de retard. Samuel Bollendorf, néanmoins, cette crise de confiance, j'imagine qu'elle doit vous toucher. Comment vous arrivez, vous, à trouver des solutions pour arriver à préserver la confiance, le pacte de confiance avec le public qui est primordial?
Mais en fait, ce pacte de confiance, on voit bien qu'il y a 10 ans, il est rompu par Ben Dixon qui arrive à finalement tromper le directeur de Visa pour l'image, Jean-François Leroy, parce que finalement c'est là que ça se joue, c'est parce que lui avait confiance Ben Dixon. Donc finalement, quand on est trompé par quelqu'un, on ne le croit plus. Et donc il suffit d'une fois. La question c'est... Premièrement, effectivement, d'être extrêmement rigoureux dans nos métiers. Et ça, c'est ce avec quoi se débat l'AFP, par exemple. Mais c'est aussi de forger ce sens critique. Et là où c'est très grave, c'est que c'est d'une responsabilité politique, effectivement, de décider de d'éduquer à l'image dès le plus jeune âge, dès la primaire, une heure par semaine et jusqu'au bac. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas autant de Français que d'éducation à l'image à l'école. Mais par ailleurs, c'est un enjeu politique au sens de, on voit bien que l'économie de l'attention est un projet de toujours plus loin dans un capitalisme qui s'attache à presque un contrôle des masses. Et quand on voit que Meta ferme ses services de check news, etc. C'est un choix politique très grave. C'est un choix de manipulation des masses.
Alors effectivement, le groupe Meta a décidé d'arrêter de faire appel à des journalistes qui étaient embauchés comme vérificateurs des faits. Ça, c'était le cas aux États-Unis. On sait que ça va sensiblement arriver en Europe, puisque finalement, le but du jeu pour Meta n'est pas tant de vérifier la qualité des informations qu'il produit sur ses réseaux, ou du moins qu'il diffuse, mais tout simplement de créer de l'engagement et créer de l'émotion. Et on rappelle à cette occasion que Meta, comme les autres plateformes, ne sont pas des médias en tant que tels, sont des hébergeurs. Et c'est justement ce statut d'hébergeur dans lequel ils se réfugient, qui leur permet de s'affranchir de toute responsabilité, ce qui n'est pas le cas d'un média comme l'AFP, ce qui n'a pas été le cas de l'autre agence Associated Press. Et ça m'a fait penser à cette anecdote de 2014. Vous vous en rappelez peut-être, sans doute, Eric Barada, où le photojournaliste Narciso Conteras, qui était très connu, avait falsifié certaines images. Du moins, je crois qu'il avait effacé dans le décor un pied de caméra et il avait été renvoyé sur le champ par Associated Press. C'était en 2014. Est-ce qu'il se passerait la même chose aujourd'hui en 2025? Ou alors, dans les consciences, dans les usages, on s'est un peu plus habitué à la question de la retouche photo, Eric Barada?
Non, alors je pense que dans les agences comme Associated Press ou l'AFP ou Reuters ou encore d'autres grands médias comme le New York Times ce sera toujours considéré comme une faute professionnelle. De modifier la réalité, ce sera toujours considéré comme une faute professionnelle. Même si dans l'esprit du public, je veux bien l'entendre, il y a eu une évolution, on se dit, c'est pas très grave, c'est plus joli comme ça, ou c'est plus sympa, ou ça donne plus de force à l'image. Mais j'y tiens, je pense que c'est fondamental, on n'a pas le droit. C'est pas possible. Il faut pas faire ce genre de choses. Même quand on est très talentueux, même quand on est très courageux, comme Narciso Contreras, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Mais je reviens vite fait sur ce que vous veniez de dire sur les grandes plateformes qui sont au cœur de tous ces enjeux-là, qui sont fondamentales. Aujourd'hui, elles ont basculé dans un monde où il n'y a plus de limites, où on est considéré, les fact-checkers ou les agences d'information qui vérifient l'information qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, comme des censeurs. Les mots ont été prononcés aussi bien par Mark Zuckerberg que par Elon Musk, évidemment par Donald Trump et une partie de son administration. Ils ont coupé les financements d'éducation aux médias, ils ont coupé tout ce qui était financement fédéraux aux États-Unis pour développer le fact-checking et la vérification digitale. Il y a une vraie guerre contre la vérité, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais le danger, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est aussi une forme ou des formes de populisme qui veulent présenter des vérités alternatives qui arrangent tout un chacun ou qui servent un discours politique. C'est au moins aussi dangereux que l'intelligence artificielle, à mon avis, générative.
Et j'en profite pour rappeler que chez vous, à l'AFP, vous avez été directement touché par l'arrêt de ce programme, puisque Meta finançait aussi partie...
Ce chiffre en millions de dollars, ouais.
Voilà, exactement, finançait en partie cette activité de fact-checker. Après, ça pose d'autres questions, Eric Baradam, mais ce ne sera pas l'objet de cette émission aujourd'hui, de cette dépendance aussi qu'il y a eu un temps entre les médias, et vous êtes loin d'avoir été les seuls avec des entreprises et des plateformes comme Meta, qui, encore une fois, je le rappelle, ne sont ni des services publics, ni des plateformes qui se réclament l'objectivité journalistique, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles ne mènent pas un combat idéologique. Et l'actualité nous le rappelle à chaque instant. Gilles Courtina, vous souhaitiez réagir?
Oui, juste deux choses par rapport à l'histoire de Contreras et de Associated Press et tout. Au jour d'aujourd'hui, ça serait exactement la même chose. Et AP a réagi très fortement, on va dire, pour une raison très simple, c'est que était en jeu leur réputation. Et on a parlé de confiance, on a parlé de comment croire effectivement ce qui nous est proposé. Et là, l'enjeu pour eux, était quasiment un enjeu de survie. Et ce qui est vrai aussi pour d'autres agences, voire même d'autres supports. Donc là, au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, en fait, je pense que les médias, les supports, les agences, etc., sont extrêmement vigilants par rapport à ça. À cause de ça, leur réputation est en jeu, et leur réputation, c'est ce qui fait leur business, de toute façon. Ça, c'est un point que je pense qui est assez
important, effectivement, à rappeler. J'ai quand même l'impression, lorsqu'on regarde, et Donald Trump, on est un grand pourvoyeur de ces nouvelles images avec l'intelligence artificielle. Il en produit beaucoup, du moins le compte de la Maison Blanche. Elles ont aussi une forme d'esthétique, ces images-là. Est-ce que vous avez l'impression que l'IA aussi, que l'image trafiquée, assumée comme telle, produit aussi une nouvelle forme d'esthétique, et là au service, effectivement, d'une idéologie, Samuel Bollendorf?
Elle produit... oui, elle produit une esthétique absolument. Alors, pauvre, mais surtout... étriquée d'images déjà tirées de bases d'images occidentales, et en plus des usages et des consommations des usages occidentales. Donc on sait très bien que si on demande, on va pas faire l'exercice, revenir là-dessus pendant des plombes, mais on sait très bien que si on demande à une IA de générer une image de chef, ce sera un homme, que il y a des dérives
liées, évidemment.
Exactement. Et il y a des dérives liées à la consommation d'images pornographiques, etc., qui alimentent l'IA. Enfin, tout ça, de toute façon, c'est pas du tout complotiste, mais par contre, nourrit un projet qui n'est pas un projet qui fait la part belle à l'altérité, au doute et au sens critique.
Mais on a quand même moi j'ai quand même l'impression, justement, que ces nouveaux outils de l'IA, ce sont plutôt les camps populistes qui s'en emparent et qui les utilisent. Encore récemment, Donald Trump a réagi aux différentes manifestations contre lui, où on l'a vu dans un avion, image animée complètement en IA, faire des faux bombardements, et on voit que c'est toujours une réponse. Donc c'est comme si il y avait un camp qui mettait la main le plus possible sur cette technologie pour essayer de façonner un peu nos imaginaires, parce qu'il y a bien un combat de l'image et de l'imaginaire. Vous parliez de pré-impression. On est aussi impressionné dans tous les sens du terme par ces images d'IA générative. Héloïse.
Oui, alors on est effectivement impressionné par ces images, on est inondé par elles, donc forcément on y est beaucoup plus perméable. Moi, je voulais revenir sur la question de l'esthétique. L'esthétique de l'IA est une esthétique très pauvre, qui relaie des biais cognitifs s'alimente avec sans scrupule et au mépris du droit d'auteur aussi, de nombreux photographes, et donc forcément ça pose question. Mais l'esthétique en soi est aussi quelque chose qui a été réinvesti par de nombreux photographes de presse engagés, avec le souhait aussi de toucher sensiblement et symboliquement ses spectateurs, ses regardeurs. Et donc l'esthétique en soi n'est pas un problème. Au contraire, je pense que qu'elle est aussi la solution pour de nombreux photographes de presse, parce qu'elle met en place une forme de subjectivité par le cadrage, par la couleur, par l'utilisation d'images d'archives, par exemple, qui créent aussi une temporalité différente pour la photographie du réel, de l'actualité. Et donc, cette mise en perspective-là que permet l'esthétique est aussi cruciale, je pense.
France Culture, la fabrique de l'information.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, les photoreporters voyagent, même s'ils voyagent de moins en moins puisqu'ils arrivent à documenter leur terrain. Mais Courrier International, lui, continue à voyager avec vous, Marie Belleuil, et vous allez même nous emmener cette semaine à Hong Kong.
Oui, je suis venue vous parler d'un texte que vous pouvez retrouver sur notre site internet, le site de Courrier International. Il a été publié sous le titre « De plus en plus chinoise, Hong Kong perd son âme ». Et c'est le texte d'un blogueur chinois qui raconte les transformations les plus récentes de la ville et en particulier les transformations de la scène culinaire de Hong Kong. Parce qu'il connaît suffisamment Hong Kong et depuis assez longtemps pour remarquer par exemple qu'il y a de plus en plus de gargotes qui servent des plats qui viennent de toute la, des recettes de toute la Chine populaire. Elles étaient beaucoup moins nombreuses avant. Il relève aussi que dans les restaurants, dans les magasins, on parle désormais le mandarin, qui est la langue de la Chine populaire. Il dit même un parfait mandarin. On ne parle plus le cantonais, qui est la langue officielle de Hong Kong. Dernier exemple que là, il note avec une pointe d'amusement. Il remarque que la qualité du service s'améliore dans les restaurants. Là, il faut savoir que Hong Kong n'a jamais vraiment brillé en la matière. Alors, si ça s'améliore, ce n'est peut-être pas un mal, mais ce n'était pas ainsi avant.
Et alors, quand vous parlez d'avant, vous pensez bien sûr à 1997 et à la rétrocession d'Hong Kong, ancienne colonie britannique à la Chine.
Oui, tout à fait. Et je pense même avant les années 2010, avant 2013, avant que Xi Jinping n'arrive au pouvoir et ne commence à reprendre en main le territoire hongkongais. Car avant, entre la Chine et Hong Kong, on avait le modèle un pays, deux systèmes. En 2025, on est plutôt à un pays, un système. C'est-à-dire que l'état de droit à la hongkongaise a disparu, ce système juridique spécifique qui empruntait autant au droit britannique qu'au droit chinois, et il garantissait une grande liberté d'opinion, une liberté d'expression et une grande liberté de la presse aussi, parce qu'il y a eu, il y avait à Hong Kong d'excellents quotidiens, mais il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Ils ont été fermés par la censure, obligés de fermer. Leurs journalistes sont partis en exil et il y en a même sous les verrous. Mais l'intérêt de l'article, c'est qu'il nous emmène dans l'étape d'après, ce qui arrive maintenant que la ville a été mise au pas. Si je reprends la métaphore culinaire, il explique comment Hong Kong est peu à peu grignotée, avalée par Shenzhen, la ville voisine, la ville jumelle, mais Chine populaire. Shenzhen, c'est un ancien village de pêcheurs qui avait commencé à grandir, à proliférer dans les années 80, quand la Chine s'est ouverte au commerce international. Et c'est une ville champignon qui est longtemps restée dans l'ombre de Hong Kong.
C'était vous restez Hong dans la Kong. Cuisine, hein, toujours en ville champignon.
Voilà. Mais c'était Hong Kong qui était la grande ville cosmopolite, la grande place financière internationale. Et aujourd'hui, la hiérarchie entre les deux villes s'est complètement inversée. Comme l'écrit notre blogueur chinois quand il se promène à Hong Kong, je cite, on se croirait vraiment à Shenzhen.
Alors, vous parlez de ce blogueur. Qui est-il, ce blogueur chinois?
Alors, je vais avoir du mal à vous en dire grand-chose, si ce n'est qu'il est très vraisemblablement journaliste. En fait, son texte est très révélateur, emblématique de la façon dont nous devons procéder pour couvrir la Chine à Courrier International. En fait, nous avons deux possibilités. Soit nous utilisons la presse officielle, mais qui est contrôlée, très contrôlée, même encore plus contrôlée depuis que Xi Jinping est au pouvoir. Soit nous puisons dans les blogs et les réseaux sociaux. On va dire qu'il constitue une sorte de zone grise où les journalistes, sous pseudo, peuvent jouer au chat et à la souris avec la censure. Ils peuvent publier des articles en espérant qu'ils vont être lus, mais pas trop remarqués, qui vont rester noyés dans le flux de tout ce qui se publie sur ces réseaux sociaux. Et en l'occurrence, je peux vous donner le pseudo de notre blogueur. Il a écrit son article, enfin, il a publié son article sur Weixin, qui est une plateforme de blog qui appartient à Tencent, l'un des géants chinois du numérique, basé, tiens, à Shenzhen. Et il a publié son article sous le pseudo John Tsai Shengang, qui en mandarin veut dire John A. Shengang. Shenzhen étant déjà un mot valise qui compacte Hong Kong et Shenzhen.
Et pour finir, Marie, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette évolution de Hong Kong?
Tout à fait, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder un peu plus au nord, en direction de Taïwan. Mmh. Parce que pendant longtemps, le principe « un pays, deux systèmes » a été brandi par Pékin pour rassurer, pour laisser croire qu'une réunification de Taïwan avec la Chine ne porterait pas forcément atteinte aux spécificités taïwanaises, que Pékin pouvait, disons, tolérer une certaine forme d'autonomie à ses marges. On voit avec cet article ce que ça donne dans le cas de Hong Kong.
Voilà, un article à retrouver évidemment du côté du site de Courrier International. Et on rappelle que Courrier est donc notre partenaire. Chaque semaine, vous nous offrez une fenêtre sur le monde en arrivant à traduire des articles. On a compris que le photographe aussi traduisait un réel avec des complications autour de cette traduction et le maître mot de la confiance, puisque finalement on ne peut que traduire et on croit celui qui nous parle lorsqu'on a confiance en lui. En tout cas, j'étais très heureux de vous avoir tous les quatre autour de cette émission. Je renvoie évidemment au livre qui a été co-dirigé par Eric Barada, le directeur photo de l'AFP. Ce livre, c'est Regards de photographe. Je renvoie évidemment aux travaux de Samuel Bollendorf, photographe, photodocumentariste, et notamment cette exposition Paradise qui aura peut-être une vie ailleurs par le monde à l'été. En tout cas, on a pu la voir à Visa pour l'image. Merci à Gilles Courtinet aussi, qu'on peut lire du côté de L'Œil de l'Info, ce média en ligne dédié à la photographie. Et puis, si vous êtes parisien, n'hésitez pas à aller du côté de la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, pour y retrouver Héloïse Coneza, qui est historienne de la photographie. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette fabrique de l'information. Merci à Serge Leroy à la réalisation, à Vincent René à la vidéo et évidemment à Joséphine Reinhardt qui prépare comme chaque semaine cette émission avec brio.